Bon, eh bien, c'est en étudiant ces pratiques de soi comme cadre historique où s'est développée l'injonction du « il faut dire vrai sur soi-même », eh bien, c'est en étudiant ces pratiques de soi que j'ai vu se profiler, en quelque sorte, un personnage. Un personnage qui est très constamment présenté comme le partenaire indispensable, en tout cas comme l'adjuvant presque nécessaire de cette obligation de dire vrai sur soi-même. En termes plus clairs et plus concrets, je dirais ceci. Il n'est pas nécessaire d'attendre le christianisme. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'institutionnalisation au début du XIIIe siècle de la confession. Il n'est pas nécessaire d'attendre avec l'Église romaine l'organisation et la mise en place de tout un pouvoir pastoral pour que la pratique du dire vrai sur soi-même prenne appui sur et fasse appel à la présence de l'autre qui écoute, de l'autre qui enjoint à parler et de l'autre qui parle lui-même. Le dire vrai sur soi-même a été, et ceci dans la culture antique, donc bien avant le christianisme, le dire vrai sur soi-même a été dès la culture antique une activité à plusieurs, une activité avec les autres, et plus précisément encore, une activité avec un autre, une pratique à deux. Et c'est cet autre, dans présent et nécessairement présent, dans la pratique du dire vrai sur soi-même, c'est cet autre qui m'a retenu et arrêté. Le statut de cet autre, si nécessaire pour que je puisse dire le vrai sur moi-même. Présence de cet autre pose évidemment un certain nombre de problèmes et n'est pas tellement facile à analyser, car s'il est vrai que nous connaissons bien, relativement bien, cet autre, si nécessaire au dire vrai sur soi-même dans la culture chrétienne où il prend la forme institutionnelle du confesseur ou du directeur de conscience, si nous connaissons relativement bien, enfin, si on peut repérer assez facilement dans la culture moderne cet autre dont il faudrait sans doute analyser plus précisément le statut et les fonctions, cet autre qui est indispensable pour que je puisse dire vrai sur moi-même, qu'il soit le médecin, le psychiatre, le psychologue, le psychanalyste, etc. En revanche, dans la culture antique, où pourtant sa présence est parfaitement attestée, il faut bien reconnaître que son statut est beaucoup plus variable, beaucoup plus flou, beaucoup moins nettement découpé et institutionnalisé. Cet autre qui est si nécessaire pour que je puisse dire le vrai sur moi-même, cet autre dans la culture antique, eh bien, ça peut être un philosophe de profession, mais ça peut être aussi n'importe qui. Souvenez-vous par exemple ce texte de Galien sur la cure des erreurs et des passions, où il dit qu'on a besoin pour dire la vérité sur soi-même et pour se connaître soi-même, d'un autre qu'on doit aller prendre un peu n'importe où, pourvu que ce soit un homme d'âge et sérieux. C'est peut-être un philosophe de profession, ça peut être aussi un quidam. Il peut être un professeur qui fait plus ou moins partie d'une structure pédagogique institutionnalisée, Épictète dirigeait une école, mais ce peut être un ami personnel, ce peut être un amant. Il peut être un guide provisoire pour un jeune homme qui n'a pas encore atteint tout à fait sa maturité, qui n'a pas encore fait ses choix fondamentaux dans sa vie, qui n'est pas encore tout à fait maître de lui-même. Mais ce peut être aussi un conseiller permanent qui va suivre quelqu'un tout au long de son existence et qui va le mener jusqu'à sa mort. Souvenez-vous par exemple de Démétrius le cynique qui était le conseiller de cet homme qui fut important dans la vie politique romaine au milieu du 1er siècle, Trasea Petus, et qui lui a servi de conseiller jusqu'à sa mort, jusqu'au jour même de sa mort, et jusqu'au geste de son suicide, puisqu'il a assisté, Démétrius a assisté au suicide de Trasea Petus, et lui a l'entretenu, à la manière, bien entendu, du dialogue socratique, l'a entretenu de l'immortalité de l'âme jusqu'à son dernier soupir. Bon. Donc, le statut de cet autre est un statut variable, et son rôle, sa pratique elle-même, n'est pas tellement plus facile à isoler, à définir, puisque d'un certain côté, ce rôle touche à la pédagogie, s'appuie sur elle, mais c'est aussi une direction d'âme, ça peut être aussi une sorte de conseil politique, mais également ce rôle se rapporte, se métaphorise, et peut-être même manifeste, et prend forme dans une sorte de pratique médicale, puisque c'est bien du soin de l'âme qu'il est question et de la détermination d'un régime de vie, d'un régime de vie qui comporte bien entendu le régime des passions, mais aussi le régime alimentaire, le mode de vie sous tous ses aspects. Mais de toute façon, quelle que soit l'incertitude, ou si vous voulez, la polyvalence, les différents aspects et profils sous lesquels on peut voir apparaître cet autre si nécessaire à dire la vérité sur soi-même, si ces profils sont nombreux, s'il est polyvalent, si son rôle même entre médecine, politique, pédagogie n'est pas toujours facile à saisir, de toute façon, quel que soit ce rôle, quel que soit ce statut, quelle que soit sa fonction, quel que soit son profil, cet autre, indispensable pour le dire vrai de soi-même, a, ou plutôt doit avoir, pour être effectivement, pour être efficacement, le partenaire du dire vrai sur soi, doit donc avoir une certaine qualification. Et cette qualification n'est pas comme dans la culture chrétienne, avec le confesseur ou le directeur de conscience. Une qualification donnée par l'institution et se rapportant à la possession et à l'exercice de certains pouvoirs spirituels spécifiques. Ce n'est pas non plus, comme dans la culture moderne, une qualification institutionnelle garantissant un certain savoir psychologique, psychiatrique, psychanalytique, etc. La qualification nécessaire à ce personnage incertain, un peu brumeux et flottant, cette qualification, c'est une certaine qualité, une certaine pratique, une certaine manière de dire qui est précisément appelée la parésia ou le franc-parler.